Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Et pour la dernière émission de l'année, et oui, ça y est, on y est, je vais enfin pouvoir prendre des vacances, je vais arrêter de faire du montage toutes les semaines. Ah, oh, si vous saviez. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour tout le monde.
De Pixel.
Bah, vive les vacances alors, hein.
Et de Morren.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, ah non, pas d'actualité, non, cette semaine on a décidé de faire un podcast sujet libre, n'est-ce pas? Et on va commencer tout de suite dans le fil du sujet, ATH, avec ce dont tu voulais parler, à savoir ces choses dans le jeu vidéo qui t'énervent.
En fait, en jouant récemment, et pour préparer ce podcast, je me suis mis à réfléchir un peu sur le média du jeu vidéo, et je me dis que les jeux vidéo deviennent de plus en plus photoréalistes. Et il y a certains contenus du jeu qui sont là et qui desservent en fait ce photoréalisme. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une mauvaise chose et que le jeu vidéo ne devrait plus faire ça. On va prendre un exemple tout simple. Assassin's Creed, par exemple, moi je me rappelle du Assassin's Creed 2. Il y a des millions de choses à faire dans le jeu, mais par contre il y a des choses qui sont complètement inutiles et qui ne sont pas fun à jouer. Il faut trouver, par exemple, des lettres qui sont disséminées à travers la map. Déjà, qu'est-ce que ces lettres font plantées là au milieu de la carte? Mais qui les a écrites? C'est un PNJ qui s'amusait à les mettre là? Et pourquoi personne ne les a ramassées avant nous? De même pour les coffres. J'en ai parlé souvent, mais pour The Witcher 3, il y a des coffres qui sont plantés un peu partout dans la map, mais personne ne les a jamais ouverts avant que Geralt les ouvre. Du coup, ça fait que, en fait, le monde n'existe pas sans nous. Et on a l'impression que le monde, tant que Geralt ne fait pas une action, il est figé, et qu'il y a que lui qui puisse se rendre dans une région pour, justement accomplir certaines choses, et que le monde bouge une fois que celui-ci arrive. Mais c'est des choses qui sont des mécaniques d'un passé vidéoludique que les éditeurs, j'ai l'impression, ne veulent pas, ont du mal à lâcher. Parce que c'est des choses qui sont complètement absurdes, en fait, si tu les prends une par une comme ça. Et il y a aussi des choses, par exemple, que je parlais de la durée de vie. La durée de vie, c'était un argument très important dans les années 90-2000, qui était souvent noté dans la presse vidéoludique. Et j'ai l'impression que les éditeurs, ils ont encore cette idée en tête que plus un jeu est long, plus un jeu est bon.
Ah, est-ce que je peux t'interrompre, TH? Parce
ouais,
que
bien
du
sûr.
Coup, t'es en train d'empiéter sur mon sur le sujet que je voulais faire. Et donc, je vais profiter pour l'introduire, hein, vu que ça colle avec ce que tu es en train de raconter. On a eu une sortie cette semaine de Joseph Fares. Donc, Joseph Fares, hein, Monsieur A Way Out, Monsieur Brothers, Tale of Two Sons, qui s'agaçait du fait que seulement 52% des joueurs ont vu la fin de son jeu. Ce à quoi le journaliste de VG247 qui l'interviewait lui a répondu que 52% c'est très bon dans un jeu vidéo. Mmh. Parce que, par exemple, si tu prends GTA 4, il y a que 30% des gens qui ont vu la fin. Ce à quoi Joseph Fares a répondu, je cite, « Oui, et c'est bien ce qui m'inquiète, que vous trouviez ça bon. Imaginez James Cameron s'exclamer, « Oh, seulement 50% des gens sont sortis du cinéma en ayant vu l'intégralité de mon film. Wow, c'est génial !» En fait, ce que dit là Joseph Fares, en substance, durant cette interview, c'est que on marche un peu sur la tête dans cette industrie. C'est-à-dire qu'il y a des game designers, par exemple, qui conseillent à leurs étudiants de se concentrer sur les premiers 40% du jeu, parce que la plupart des gens ne verront pas la fin. Et Joseph Fares continue d'enchaîner en disant « Pourquoi faire tous ces efforts pour rien? Nous devrions voir les jeux comme des expériences. » S'il est si courant que les gens ne finissent pas leur jeu, pourquoi devrions-nous prendre en compte la rejouabilité et la durée de vie? Pourquoi cela devrait-il affecter la note? Parfois, j'ai l'impression que nous avons une table pleine de nourriture et que les gens s'agacent que toute la nourriture ne soit pas là. Quand bien même ils n'en mangeront qu'une portion, le reste doit rester là et pourrir.
Ce qui est dans cette déclaration, c'est quand même assez juste. Après, déjà, je trouve que la comparaison entre le cinéma et le jeu vidéo, elle n'est pas à faire parce que c'est deux médias différents et en plus de ça, un film, ça dure entre 1h30, 2h en général, alors qu'un jeu vidéo, c'est pas du tout le cas. Il y a des jeux vidéo qui durent cette durée-là, bien sûr, mais on va dire, la moyenne générale, les jeux se concentrent plus sur une dizaine d'heures. Et puis, si quelqu'un lance un jeu qu'il n'a pas envie de le finir parce qu'il trouve qu'il est assez picoré dans le jeu, il se dit, c'est bon, j'ai fait le tour de l'expérience, et puis le jeu me plaît pas tant que ça, bah finalement, il va pas se forcer à aller au bout, tu vois.
Oui, et même au-delà de ça, moi, ce que je voulais dire, et c'est pour ça que je voulais réagir à ce que dit Joseph Fares, parce que, si tu veux, ce qui m'a gêné, c'est pas tant ce que dit Joseph Fares, d'autant plus que, tu sais, c'est une interview, et des fois, en interview, tu peux pas dérouler tout le fond de ta pensée, quoi. Et je pense que peut-être il a des une réflexion un peu plus profonde que ça. Oui, mais ce qui m'a gêné, c'est les réactions binaires qu'il y a eu suite à cette interview, tu vois, en mode « oui, il a raison, oui, il a tort ». Je pense que c'est peut-être un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que, oui, par exemple, pour une expérience comme A Way Out, je comprends qu'il s'agace que seulement 52% des gens aient fini son jeu. Pourquoi ? Parce que A Way Out, c'est une expérience très narrative, et l'objectif, tu vois, c'est finalement de voir tout le déroulé de l'expérience. Et il y a des jeux comme ça qui sont conçus dans une optique, tu sais, où il va y avoir une construction de l'histoire et où l'objectif, effectivement, c'est d'arriver au crédit du jeu. D'ailleurs, c'est la question que je posais hein, dans le déroulé de l'émission. Les crédits sont-ils une fin en soi ? Pour moi, la réponse à cette question, c'est ça dépend. Parce qu'il y a des jeux, au contraire, par exemple, je sais pas moi, un jeu en monde ouvert comme Zelda Breath of the Wild, où mais on s'en fout de voir les crédits du jeu. Et ce qu'il dit, par exemple, tu sais, sur le fait que parfois il a l'impression de foutre une table pleine de nourriture et que les gens se plaignent que oui, il y ait pas toute la nourriture qui soit là. Bah encore une fois, même si je comprends que ça l'agace dans son jeu à lui, parce que lui, son objectif, c'est de proposer une expérience bien précise, il y a d'autres types de jeux où effectivement, je comprends que ça agace les joueurs qu'il n'y ait pas une certaine variété. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de l'expérience de ces jeux-là. Je vais citer un exemple, les immersive sims. L'essence même d'un immersive sim, comme Deus Ex par exemple, c'est de proposer de multiples approches en fait. Et du coup, c'est normal que les gens ne s'essayent pas à toutes les approches, et c'est normal qu'il y ait une partie de la nourriture, pour reprendre son analogie, qui reste là à pourrir.
Bien sûr.
Tu vois, par exemple, qu'on me dise qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas fini GTA 4, que seulement 30% aient fini GTA 4, je dis, mais ouais, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui jouent à GTA juste pour le plaisir de faire des conneries. Ils en ont rien à branler de l'histoire, quoi. Et la preuve, c'est pour ça que GTA 5, je pense que le mode online a encore plus marché que le mode solo, parce que les gens, ils étaient là pour faire des conneries et sont encore plus amusés à faire des conneries à plusieurs que tout seul.
Bien sûr.
Que les gens ne voient pas la fin de ces jeux-là, est-ce que c'est grave ? Non. Alors après, par contre, là où je suis d'accord avec toi, TH, c'est que même dans ces jeux-là, il faut savoir garder un certain équilibre. Ce que j'apprécie dans Breath of the Wild, en dehors de la mécanique des kogoros qui est absolument nul à chier, tu sais, les kogoros, c'est les espèces de bestioles collector là que tu vas essayer de choper partout et il y en a 900 dans le jeu, ça ouais. Sert à rien. Mais par exemple, c'est un jeu qui est bourré de contenu, mais c'est du contenu qui est cohérent, qui ajoute à l'expérience. Contrairement à des jeux Ubisoft, par exemple, qui sont des jeux aussi bourrés de contenu, mais souvent, tu sais, c'est du contenu... T'as l'impression que c'est pour faire du remplissage.
C'est
et
ça, oui.
Je trouve qu'il y a une nuance entre remplir un jeu de contenu, qui sera pas forcément vu par tout le monde, et ça, je vois pas en quoi c'est un problème, parce que justement, moi, je trouve grisant de me dire que j'ai joué à un jeu, mais en fait, j'en ai vu qu'une partie, tu vois. Certains jeux gagnent à être extrêmement riches. Mais encore faut-il que cette richesse soit un tout cohérent, et malheureusement, parfois, comme on le dit souvent, on se plaint des jeux Ubisoft, je trouve que ce sont des expériences qui sont pas cohérentes, parce que c'est des jeux qui essayent de tout faire et qui parfois le font mal.
Oui, et puis même, comme on parlait de remplissage, j'ai l'impression que les game designers sont contraints par leurs éditeurs à remplir des lieux, par exemple, de quelque chose, absolument, faut absolument mettre quelque chose d'ici, alors que, tu vois, ça, dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que les espaces vides, ça fait peur. Pourtant, on voit bien comme un jeu comme Red Dead Redemption, qui souffre aussi de certains de ces défauts-là. Ça veut pas dire que je cite Red Dead et que ce jeu-là est exemple de défaut. Mais par exemple, c'est un jeu où il y a beaucoup de vide et beaucoup de désert. Mais les développeurs ne sont pas amusés à mettre à chaque coin quelque chose vraiment à faire. Des fois, t'es là et tu prends juste du plaisir à te balader dans un décor vide où la nature, finalement, reprend ses droits. Alors que, par exemple, si on était dans un God of War, il y aurait une colline, et bah, à la fin de cette colline-là, il y aurait eu forcément un coffre ou bien quelque chose, un artefact. Et c'est ça qui est un petit peu bête. Je trouve vraiment que le jeu vidéo, c'est pour moi le plus beau média, parce qu'il te permet de raconter une histoire et d'avoir vraiment la main libre, même dans des jeux très couloirs comme par exemple God of War. C'est-à-dire que dans God of War, si tu veux tourner à droite à ce moment-là, eh ben, tu tournes à droite à ce moment-là. Donc, t'as un peu ce rôle de réalisateur qui te permet d'avoir le contrôle vraiment total. Alors que un film, un livre, une série, c'est figé, tu peux rien faire, tu peux pas modifier. Et alors que là, même des jeux très linéaires, t'as quand même un certain contrôle sur l'action que tu vas faire. Et moi, je trouve que vraiment, aujourd'hui, on pourrait s'amuser à faire des jeux vraiment qui pourraient souffrir de aucun temps mort. Enfin, je vais encore reprendre l'exemple de God of War parce qu'il est très symptomatique. Mais combien de fois dans God of War, je me suis dit, bon, c'est bon, là, ça va être la fin. Et là, le jeu dit, ah bah non, il faut chercher la bidule magique là-bas qui va te permettre d'ouvrir la porte. Et là, tu fais, mais non, les gars, putain, c'est complètement con. Surtout que il l'aurait fait une fois, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais là le problème c'est que le jeu t'oblige à te faire 3-4 allers-retours comme ça, et là tu vois tout de suite, tu fais ah oui c'est vrai, je suis dans un jeu vidéo, tu vois.
Et ça se voit d'autant plus dans God of War que pourquoi on fait un focus comme ça sur God of War, parce que c'est un jeu qui déploie des trésors d'ingéniosité pour te raconter une histoire en permanence, tu vois, avec Atreus qui parle avec son père, alors que dans des jeux comme les Elder Scrolls par exemple, etc., tu le remarques moins parce que déjà c'est pas des jeux qui sont axés sur l'histoire, et en plus t'as un protagoniste qui est seul, donc la narration on s'en fout à la limite, alors que dans un God of War, mais c'est au cœur du sujet quoi.
C'est ça. Et juste pour finir très rapidement sur le fait que Joseph Fares a dit que les gens ont une table remplie et qu'ils ne bouffent pas tous les râteliers, quoi. On va prendre un exemple, justement, des Elder Scrolls. Ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire que quelqu'un qui a vraiment fini The Elder Scrolls, ça serait un mec qui aurait fini le jeu avec toutes les quêtes, avec toutes les classes? Ou bien, si tu fais un MMORPG avec une seule classe, est-ce que t'es obligé de faire les autres classes pour avoir la prétention de pouvoir en parler? Parce que tu peux très bien en parler du jeu en ayant une expérience spécifique, en disant voilà, moi j'ai fait par exemple un paladin ou je sais pas quoi, du coup mon gameplay c'est plutôt axé sur le combat au corps à corps, mais est-ce que toi t'as envie de jouer mage? Non. Du coup le jeu vidéo ne peut pas entre guillemets te prendre en otage pour te dire écoute mec, t'as fait qu'une partie du jeu, mais tu vas pas mettre une critique à mon jeu parce que t'as pas fait toutes les options. Non, parce que la personne a envie de passer à autre chose. Et puis forcément, nous, on vieillit, on commence à avoir des vies de famille, tout ça. Et on n'a pas forcément le temps aussi de s'amuser à passer autant de temps sur un jeu qu'on pouvait le faire lorsqu'on était adolescent. Des jeux comme les Final Fantasy X et tout ça, à l'époque, je pouvais passer plus de 100 heures dessus parce que je voulais avoir vraiment l'épée utile.
Je rappelle que j'ai passé 2000 heures sur Morrowind.
Ça n'arriverait tellement plus maintenant.
Voilà, alors aujourd'hui d'avoir l'épée ultime, machin brillante, enfin je pourrais plus.
Ouais. Mais je vous rejoins évidemment sur le côté le temps de jeu potentiel chez un joueur se réduit finalement comme peau de chagrin, surtout avec voilà les années avançant. Il y a un truc que je trouve assez prégnant dans ce que raconte Fares, c'est à quel point le métier de game designer peut être ingrat en fait. En réalité, leur job, c'est de proposer aux joueurs des jeux que l'éditeur veut mettre en place, donc avec un certain nombre d'items dans un cahier des charges qui est souvent très très précis quand on parle notamment de jeux en monde ouvert. Et du coup, le game designer, lui, il arrive avec des missions qui sont assez claires, c'est-à-dire fais-moi un jeu qui soit relativement long, qui ait une durée de vie assez large, qui ait des possibilités assez gigantesques et qui soit rempli et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit vide, quoi. Et au final, forcément, quand tu montres ton jeu à tout le monde va pas jouer à toutes ces possibilités-là, c'est juste pas possible humainement. Sauf quand on parle d'un certain nombre de joueurs qui sont obsessionnels, mais ça reste évidemment une portion congrue du monde des joueurs. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore au début d'une manière nouvelle de juger les jeux vidéo, c'est-à-dire que pour l'instant, tous les jeux vidéo, ou quasi, sont jugés à la même enseigne. C'est-à-dire que ça soit une expérience ou un jeu plus touffu avec beaucoup beaucoup de possibilités, on parle toujours, encore et toujours, de la durée de vie. Et je pense que c'est ça qui lui fait mal au cœur, en fait, à Fares, c'est que son jeu à lui, il doit pas être jugé sur les mêmes critères qu'un Assassin's Creed, par exemple.
Ouais, mais tu vois, pour Joseph Fares, par exemple, il y a des jeux qui sont dans le même, on va dire, typologie de jeu que Joseph Fares, à savoir un jeu très narratif. Heavy Rain, à son époque, avait été fini par plus de 70% des joueurs. Pourquoi Heavy Rain, avec toutes les qualités bonnes ou mauvaises qu'on en pense, aurait un meilleur ratio qu'un jeu comme A Way Out? Pourtant, c'est des jeux sensiblement similaires, qui ont une durée de vie sensiblement similaire. Peut-être que tout simplement les joueurs qui ont joué à A Way Out ont pas trouvé le jeu
alors
si génial que ça, tu vois.
Fares ne dit pas que son jeu est génial et qu'il trouve scandaleux que c'est seulement 52. Justement, il ne se satisfait pas. Ouais. Peut-être que justement, il estime qu'il a pas assez bien fait son job pour que les gens finissent son jeu. Lui, justement, il n'est pas satisfait que seulement 52% des gens aient fini son jeu. Il ne dit pas que son jeu est parfait ou que, voilà, attention.
Et là-dessus, c'est un paramètre qui est intéressant pour un type de jeu comme celui-ci. Parce que finalement, s'il y a si peu de gens dans son esprit qui l'ont terminé, ben c'est quelque part, il a échoué. Et je comprends sa déception, parce qu'au final, ce paramètre-là, c'est le seul que lui doit prendre en compte, finalement, sur la gestion bonne ou mauvaise de son jeu, à mon avis.
Ouais, mais tu vois, parce que le jeu vidéo, on a quand même la chance, aujourd'hui, avec le fait que les consoles et les PC soient connectés à Internet, d'avoir un échantillon de la population qui a terminé les jeux. Combien d'entre nous ont commencé des séries et au bout d'un moment on se dit putain mais c'est chiant, il se passe rien, et du coup on a carrément zappé la série, ouais. On est passé à une autre. Par exemple, moi je vais prendre le cas avec The Walking Dead. La première saison, j'ai trouvé ça très bien rythmé et tout. Et puis à partir de la deuxième, ça commence, c'est descendu. Je me suis forcé à regarder la deuxième. Et arrivé à la troisième, j'ai fait bon les fuck, ça me saoule, il se passe rien dedans. Ça... Et du coup j'ai arrêté. Sauf que pour les séries, il n'y a pas de pourcentage. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, de savoir combien de personnes ont fini la série.
Moi, j'ai envie de dire, les séries, c'est un peu le jeu à service.
Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de gens qui picorent des séries à droite, à gauche. Et finalement, tu vas regarder celle qui t'intéresse le plus, tu vois. Et un jeu vidéo, je trouve que c'est plus intéressant d'analyser vis-à-vis d'une série parce qu'on va dire en termes de rapport durée de vie.
De rapport à l'investissement, j'aurais envie de dire, tu vois. Parce que un film, ça demande quand même beaucoup moins d'investissement qu'un jeu, quoi.
Tout c'est simplement. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, un film, même s'il me plaît pas beaucoup, en général, je le termine, tu vois, parce que je me dis peut-être qu'à la fin, il va avoir quelque chose. Mais une série, si tu me dis, putain, les 5 premières saisons, c'est nul à chier, donc tu dois taper 30 heures de série. Mais par contre, la saison 6, qu'est-ce qu'elle défonce? Bah non.
Ça arrive souvent.
Et là, on va justement revenir avec le jeu vidéo. Un jeu comme Spec Ops The Line. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait la gueule. Hein. J'étais là, j'ai fait... Mais on m'a dit, il faut que tu finisses absolument ce jeu. Il est magnifique. Comme ça, il est pas long. Il n'est pas long, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, mais si ça aurait été un jeu comme d'une durée de vie similaire à un Skyrim ou un GTA, mais j'aurais jamais fini ce jeu. Mais j'aurais dit non. J'aurais dit, les gars, j'en ai rien à foutre. Même si c'est la meilleure histoire du monde, si c'est la meilleure chose que vous avez fait dans le jeu vidéo en termes d'écriture, mais si je dois me faire chier devant mon écran pendant tout ce temps-là, mais pourquoi je vais me forcer?
Moi, c'est ce que je répondais aux gens quand on se disputait sur Final Fantasy 13. Ouais, tu vas voir, à un moment donné, le jeu il s'ouvre, c'est génial. Ouais, attends, il faut jouer combien de temps avant d'arriver à Grand Pulse? 20 heures? Hein? Non.
Et en plus de ça, tu vois, aujourd'hui, avec la démocratisation d'Internet et tout ça, qui te permettent d'avoir des informations sur un jeu et tout, c'est beaucoup plus simple d'aller sur YouTube, de taper, par exemple, fin secrète de tel ou tel jeu. Alors qu'avant, ils te disaient, ouais, pour avoir la fin secrète, il te faut l'équipement et l'armure ultime qui te permet de résister au boss final. Bah là, tu te dis, attends quoi, il faut farmer pendant combien de temps encore, 100 heures? Ah non, j'ai pas envie. Tu vas regarder sur YouTube quelqu'un qui s'est amusé à le faire parce que lui certainement il aura pris beaucoup plus de plaisir que toi. Et du coup tu dis ah ok, c'était tout ça pour ça. Ok, bah je vais me lancer une partie d'un autre jeu qui vient de sortir ou passer à autre chose, parce que après le jeu vidéo c'est une activité très chronophage, mais c'est pas le seul média auquel on s'intéresse, et c'est puis on, dans la vie tous les jours on fait autre chose que jouer au jeu vidéo.
Ouais.
Donc voilà, je suis désolé, c'est un petit peu long. Mais...
Non mais de toute façon j'en ai profité pour glisser mon sujet, comme ça on a fait un package, c'est parfait. On va enchaîner et on va maintenant parler de la question que voulait nous poser Pixel. Je te laisse enchaîner, Pixel.
Alors, quel est votre plaisir coupable préféré, messieurs?
Bah, tuer des chats, hein.
Non, alors moi j'ai réfléchi pas très longuement à cette question, mais il y a un truc qui m'a popé à l'esprit comme ça, parce que en général je suis assez chiant sur les jeux, hein, je vous le dis. C'est très rare qu'il y ait un jeu, tu sais, vraiment dont je peux dire objectivement qu'il y a des trucs qui sont nazes dedans, mais je sais pas, il y a un truc, une magie qui fonctionne avec, qui fait que j'adhère. Mais finalement, j'en ai trouvé un, et ATH le connaît, en plus. Comme ça, on va pouvoir discuter. Ce jeu, c'est Way of Samurai 4. Mmh. C'est-à-dire, c'est un jeu...
Ah oui,
il a
je
plein
l'ai
de
fait
défauts,
aussi.
Il est mal foutu. Ah, en gros, Way of Samurai 4, c'est quoi? On joue à l'époque où le Japon commence à s'ouvrir, et on joue à un samouraï errant, quoi. On joue à un ronin. Ce jeu, en fait, c'est un peu le jeu pété de partout, quoi. C'est-à-dire, tu sais, les animations, elles sont pas folles du tout. Le système de combat, il est un peu pété. Techniquement, le jeu, il est complètement à la ramasse. Mais je sais pas, ce jeu, en fait, c'est un jeu où tu peux roleplayer un samouraï, quoi, on va dire. C'est-à-dire que t'as plein d'embranchements dans l'histoire. En plus, t'as un système de jour-nuit, etc. Et en fonction des actions que tu vas faire, l'histoire va pas se dérouler pareil. Et ça fait partie de ces jeux, si tu veux, qui ont un charme, quoi. C'est-à-dire que le jeu, franchement, il paye pas de mine. Mais il y a des possibilités tellement inhabituelles et dans un cadre tellement particulier, avec une ambiance over the top. C'est-à-dire que c'est limite du samouraï pulp, quoi, si tu veux.
Ouais,
les costumes, ils sont complètement fous, il y a une ambiance déjantée, etc. Et du coup, c'est un jeu auquel j'adhère, malgré le fait que, franchement, quand je le regarde, je me dis, putain, mais t'as quand même une sale gueule, mon vieux, quoi.
Et en plus, surtout que le jeu dont tu parles, c'est un jeu qui est pas très long à finir, mais
la rejouabilité est énorme.
Mais c'est un mini RPG en fait, entre guillemets, où t'as vraiment l'impression que tes actions comptent, et c'est ça qui est plaisant.
Et même dans la construction de ton personnage, tu sais, les skills que tu peux choisir, etc. T'as une vraie sensation d'évolution. Ça fait partie de ces jeux qu'on voit plus trop aujourd'hui, parce que les jeux ont tendance à être super polish, etc. Mais où quand tu le vois, tu dis, ouais, il y a... Je sais qu'il est pété, mais il y a un truc derrière qui fait que j'adhère à fond, quoi.
Bah, pour le coup, ça serait un bonbon dans un très mauvais emballage, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Non, mais moi, je te rejoins totalement, parce que c'est vrai que il y a des jeux comme ça qui... Par exemple, un jeu comme Deadly Premonition, c'est un jeu qui est pété de partout. Il est vraiment, on dirait un jeu PlayStation 2, il est moche, il est horrible, la maniabilité est dégueulasse. Mais je sais que le jeu a une communauté de fans, parce que c'est un jeu vraiment très bien écrit. Et il y a des jeux comme ça qui sont pas très beaux, pas très reluisants au premier abord, mais quand tu t'y intéresses vraiment, bah ils te font dire « Ah, quand même, c'est dommage que le jeu n'ait pas eu plus de moyens, parce que s'il aurait touché un plus grand public, je pense que possiblement ça aurait pu être un jeu qui aurait fait avancer le média, tu vois. »
Mais après, c'est toujours le même problème. On se dit ça, mais en vrai, tu sais très bien que les jeux qui ont un budget plus conséquent, c'est très rare qu'ils acceptent de prendre des risques, quoi. Et finalement, si le jeu est comme ça, c'est aussi parce que il avait un budget tout rikiki et que les mecs, ils se sont dit, vas-y, on se lâche. On y va, on met tout, vas-y. Même si c'est un peu pété, on y va. Et ça donne, des fois, des petites perles comme ça, quoi. Voilà.
C'est vrai.
Quelque chose à ajouter, messieurs?
Bah peut-être mes plaisirs coupables, moi, parce que j'en ai plusieurs.
Bon.
Alors le samedi soir.
Alors déjà un truc un peu global sur le jeu vidéo et ma manière de le consommer, c'est pas vraiment un plaisir, mais je me sens vraiment coupable de le faire. C'est acheter plein de jeux et jamais les lancer.
Ah, oui.
Je dois être le champion en toute catégorie, en tout cas de.
Alors moi, tu
des
vois,
qui participent
c'est
au podcast.
Aussi quelque chose que je fais. Mais moi, tu sais comment j'ai arrêté de culpabiliser par rapport à ça. Il y a des jeux, je les achète, je sais pertinemment que je n'y jouerai jamais. Mais ça ne me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que, en fait, je les achète pas pour y jouer, mais pour soutenir les studios qui sont derrière, tout simplement. Ouais. Peut-être qu'un jour, je pourrais plus me le permettre, tu vois, financièrement. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être quelqu'un qui peut se permettre de soutenir comme ça financièrement des studios qui font des choses que je trouve cool. Et moi, ça m'arrive très régulièrement d'acheter des jeux. Je sais que j'y jouerai pas, tu vois, mais c'est pas grave parce que ces studios-là, moi, je veux les soutenir et peut-être qu'un jour, ils sortiront un jeu auquel je voudrais vraiment jouer et auquel je prendrai le temps de jouer. Voilà.
Je vois ce que tu veux dire. Alors moi, j'ai pas vraiment cette optique-là quand j'achète les jeux. C'est, tu sais, à chaque fois je les achète, notamment quand je fais les soldes Steam. Bon, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de les faire parce que ça y est, j'ai compris que j'étais malade. Mais ce que je fais, c'est que quand je les achète, je me dis ah ouais, j'ai vraiment envie d'y jouer. Et je me rends compte un an, deux ans après que je les ai achetés et que je les ai toujours pas lancés. Donc si je les ai achetés il y a deux ans, finalement, c'est que j'avais pas tant envie que ça d'y jouer. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment le plaisir d'acheter,
oui,
mais la culpabilité qui vient après, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, j'essaie de me soigner, je me fais une petite liste de jeux voilà que je peux terminer. Il y a une 150aine de jeux quand même sur mon Steam qu'il va falloir que j'élague. Après, à ma décharge, j'achète rarement ces jeux-là plein pot. Et c'est toujours des trucs, tu sais, le fameux problème du bundle, quoi.
Au lieu de te payer un kebab, tu payes un jeu, quoi. C'est
Exactement. Ça, c'est un premier donc plaisir coupable, entre guillemets. Après, il y a tout ce qui est jeux mobiles. Voilà, vous voyez pourquoi c'est coupable.
Non mais je fais exprès, oh là là.
Mais non, mais le patron d'Electric Arts, il a dit qu'il fallait juger les jeux mobiles comme tous les autres jeux vidéo.
Mais en tout cas, voilà, évidemment, j'ai eu la phase Pokémon Go, alors ça s'est complètement arrêté depuis, pour moi, parce que ça me fatigue un petit peu, et mais c'est vrai que j'ai vécu cette phase-là un peu d'euphorie avec tous ces gens qui, d'un coup, se retrouvaient avec leur passion de Pokémon. J'ai trouvé ça très très cool de voir dans la rue un père et son fils, notamment, partir à la chasse aux Pokémon. J'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est vrai que j'ai vécu ça pendant un moment. Après, il y a un truc que j'ai, et ça pour le coup, c'est vraiment coupable. Quand j'ai 5 minutes, quand j'attends mon train ou je sais pas quoi, j'aime bien passer le temps. Et du coup, je cherche spécifiquement sur mobile ce qu'on appelle des idle games, des jeux qui, quand tu les quittes, il continue à jouer. Des clickers comme Adventure Capitaliste et des trucs dans ce genre-là. Et ça, je sais que c'est la lie du jeu vidéo. Mais je sais pas pourquoi. J'ai ce petit plaisir du... quand j'attends mon métro, je rebranche le jeu et je me rends compte que ben, le jeu a joué et que ça y est, je peux acheter plein d'autres trucs, machin. Enfin, bref. Donc voilà, ça, je pense que c'est un plaisir coupable, vraiment, vraiment coupable, quoi.
Voilà. Donc, Mandarin, tu as perdu toute crédibilité désormais. On va pouvoir passer à la suite.
Voilà. Mais, c'est, ce sujet, c'est aussi pour, voilà.
Non, mais.
Lâcher ce genre d'infos, quoi.
Je taquine.
Autre confession à faire, Mordran, ou pas?
Non, vas-y.
Tu ne seras plus pardonné après. Bon, après, là, ça va être le moment où je vais perdre toute crédibilité aussi comme Mordran. Mon plaisir coupable, c'est la série des Assassin's Creed.
Oh, ça va, plaisir coupable.
Surtout quand on sait que tu joues à Assassin's Creed, hein, donc non, c'est pas comme si c'était une surprise. Je veux dire, au bout d'un moment, si tu joues à pratiquement tous les épisodes, on se doute que t'apprécies la série ATH quand même.
Non, mais en fait, moi, pourquoi c'est mon plaisir coupable? Parce que ces enfoirés d'Ubisoft proposent à chaque fois une nouvelle destination, tu vois. Ah, c'est Rome. Oh, oh, j'ai envie d'y aller. Oh, l'Égypte. Ah, oh, les enfoirés. Pourquoi ils ont fait ça, tu vois? Même là, le prochain Assassin's Creed, je sais que le jeu va pas me plaire et je vais râler dessus, je vais pester. Mais c'est la Grèce, tu vois. J'ai regardé aucune news, aucun trailer. Je sais qu'il existe et j'ai vu quelques, on va dire, screenshots et tout ça quand les gens faisaient des récaps, ils mettaient des images du jeu. Et quand j'ai vu la plage et tout, je me suis fait putain, mais c'est trop beau. J'ai trop envie d'y aller. Mais je sais que ça va être éperdument la même chose qu'Origins. Et du coup, moi,
ouais, c'est sûr.
C'est comme ça qu'ils arrivent à me happer et à me faire dépenser mon argent, tu vois. Des fois, ils sont là.
Ah, en fait, tu dis, putain, je me suis encore fait avoir, quoi. Voilà, ouais, c'est salaud, quoi.
Et du coup, c'est pour ça que moi, je dis que c'est un plaisir coupable, parce que des fois, tu vois, t'es là, tu lâches ta thune. Parce que tout simplement, ils proposent à chaque fois une nouvelle destination et que ça fait mal au cœur de dépenser de l'argent là-dedans. Mais bon, je me suis calmé, en fait, depuis Unity, quand même, hein. Maintenant, j'achète les jeux vraiment quand ils apportent quelque chose de différent. Sinon, au pire des cas, je les prendrai d'occasion vraiment à 10€, comme ça. Ça sera un plaisir coupable, mais pas trop cher. Ça sera 2 kebabs, tu vois. Ça sera. J'ai plus envie de me faire arnaquer par Ubisoft, quoi.
Bon, Pixel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On enchaîne parce que là.
Bah, Pixel, il a peut-être des plaisirs coupables quand même, non?
Ouais, Steven Seagal, par exemple.
Et Homefront aussi.
Ah oui, Homefront The Revolution, mais je l'adore ce jeu-là. D'un amour sincère. Ah, et puis aussi, comment il s'appelle le jeu là? Avatar. Merci Ubisoft.
Ah oui, oh là là, je l'avais presque oublié.
Avatar d'Ubisoft là, celui qui peut faire les 1000G rapidement. C'est un jeu qui s'est énormément vendu parce que tous les gens qui collectionnent les succès trophées l'achètent et au bout de 20 minutes en fait ils ont platine quoi du jeu.
Sérieux?
Ouais. Parce qu'en fait sur internet vous avez des listes comme ça des jeux on va dire faciles parce qu'il y a des gens qui font vraiment la course au gamer score.
Ouais.
Ils recensent tous les jeux comme ça qui sont facile d'accès. Il y a plein de jeux, tu sais, dedans, comme, par exemple, Léa Passion, je sais pas quoi, enfin, des jeux comme ça, un peu de merde, quoi. Ça leur permet de farmer, en fait, les succès. Mais c'est un jeu qui est ultra connu dans le monde, on va dire, un peu underground, des gens qui font les succès et les trophées, quoi.
Bon. Messieurs, va falloir qu'on enchaîne, là. Excusez-moi, mais, là, on est en retard sur l'horaire. Mordren.
Oui.
On va passer à ton jeu du moment.
Tout à fait.
Et ton jeu du moment, c'est Jurassic World Evolution.
Oui, Jurassic World Evolution, qui est un jeu de Frontier Development, donc les développeurs de Planet Coaster. C'est un jeu qui est sorti le 15 juin 2018, c'est un jeu de gestion, qui est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Alors, un jeu de gestion avec de grosses guillemets, et on va en parler tout de suite.
Ouais, parce que j'avais envie de te dire, est-ce que c'est pas un plaisir coupable, Jurassic World Evolution?
Ah, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça parce que clairement c'est un jeu que j'aurais pas forcément acheté s'il y avait pas eu des dinosaures dedans. Je pense que il y a un côté j'en ai toujours rêvé de ce jeu, tu vois. Parce que moi j'ai beaucoup joué à Zoo Tycoon à l'époque et il y avait toujours, tu sais, l'extension dinosaure pour Zoo Tycoon. C'est toujours décevant parce que c'était jamais ouf. Et donc du coup, bah, tu te doutes bien que quand j'ai vu 1 les développeurs de Planet Coaster, 2 avec la licence Jurassic World, 3, un parc avec des dinos, tu te dis, bon, il me le faut, ce jeu. Donc, je l'ai acheté day one.
Shut up and take my money.
Ouais, exactement. Quand bien même, il coûtait extrêmement cher. C'est très, très rare que j'achète des jeux aussi chers. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez créer votre parc Jurassic World, donc Jurassic World ou Jurassic Park, comme vous voulez. C'est un jeu qui se joue en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause là où, dans la plupart des jeux de gestion, il est plutôt habituel d'avoir des pauses ou même une capacité pour augmenter le défilement du temps. Là, pour le coup, c'est pas possible parce que c'est un jeu qui va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. De la même manière que, finalement, Jurassic Park, c'est une entreprise qui ne fonctionne jamais. Et mais Jurassic World Evolution, c'est un parc qui va tout faire pour faire en sorte que ça se passe pas forcément très bien. ce qu'il faut faire, c'est gérer évidemment les besoins de nos dinosaures, leur nourriture, leur accès à l'eau, leur capacité à socialiser avec différentes espèces ou la même espèce qu'eux, évidemment gérer leur environnement dans leur enclos, mais en plus de ça, il faut aussi gérer des facteurs externes à votre parc, puisque on le sait tous, maintenant qu'on a vu tous les Jurassic Park, Jurassic World, il y a toujours un problème d'ordre environnemental dans ces films-là, c'est-à-dire que t'as une tempête tropicale qui débarque, et ça se passe mal. Et bien évidemment, c'est présent dans Jurassic World Evolution, et en plus de ça, il y a des îles où on s'est dit, ouais, on va faire un Jurassic Park à cet endroit-là, mais c'est pas grave en fait, si l'île est sujette aux tornades, ça va bien se passer. Voilà, donc c'est un petit peu ce genre de choses qu'il va falloir apprendre à gérer. Comment ça se passe pour choper des dinosaures et les mettre dans votre parc? La première chose que vous devez faire, c'est envoyer une expédition chercher des fossiles dans un site de fouille. Ensuite, il faut récupérer l'ADN de ces fossiles. À partir du moment où vous avez plus de 50% de l'ADN recomposé d'un de vos dinosaures, vous pouvez lancer une incubation de ce dinosaure. Évidemment, vous avez 50% de chance que l'incubation échoue. Ensuite, vous avez une espèce de petite frise avec des capacités de modification du génome. Plus vous l'avez développé, plus vous avez des choses différentes que vous pouvez apporter à votre futur dinosaure que vous allez incuber. Donc ça va être, par exemple, une augmentation de son attaque, une augmentation de sa défense, de sa longévité, des choses comme ça. Et évidemment, ça va booster la note de prestige du dinosaure. Évidemment, plus vous avez des dinosaures de prestige dans votre parc, plus les visiteurs vont venir et payer cher pour venir visiter votre parc. Une fois que vous avez fait tout ça, vous incubez votre dinosaure et vous le transférez dans son petit enclos que vous aurez géré évidemment pour qu'il ait accès à de la nourriture, de l'eau. Et puis, si c'est une espèce qui est sociable, comme un certain nombre d'herbivores, mais faire en sorte qu'il y ait plusieurs animaux de leur espèce, sinon ils vont être malheureux. Et quand un dinosaure est malheureux, ça se passe en général assez mal pour votre Jurassic Park, puisque il va péter son enclos, peu importe si c'est du béton ou si c'est électrifié, il en a rien à foutre, il pète le truc, et c'est là que les problèmes commencent.
Ça tourne mal.
Comment on gère ces choses-là? Il y a différents bâtiments qui sont des équipes opérationnelles qui vont gérer votre parc. Vous avez un poste de garde qui, eux, sont plutôt amener à soigner les animaux, remplir leurs mangeoires, et évidemment réparer les enclos qui seront éventuellement cassés. Mais il y a évidemment des enclos qui vont casser, ça serait pas Jurassic Park sinon. Vous avez aussi une équipe, une unité de confinement qui se trimballe à hélicoptère, qui va elle être amenée en situation de crise à tranquilliser un dinosaure qui se comporte mal, donc qui serait par exemple en train de bouffer des visiteurs, parce que ça peut arriver. Je reviens sur les dinos qui sont particulièrement bien réalisé. Les animations sont très très cool, les modèles sont vraiment bluffants. Il y a juste un petit hic, c'est que l'intelligence artificielle des dinosaures est finalement assez pauvre. Je pense notamment aux différents combats qui peuvent éclater entre les dinosaures. C'est-à-dire que si t'as un contre un, c'est celui qui tape le plus fort qui gagne. Donc c'est pas très intéressant. Au final, ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des notifications de combat, et quand tu cliques dessus, t'es transporté vers ce combat-là, mais au final, c'est limite si tu les regardes encore, parce que c'est finalement pas très intéressant à regarder une fois que t'en as vu beaucoup. Comment ça se passe en termes de progression dans le jeu? C'est un jeu qui est uniquement solo, hein, y a pas de multijoueur. Il y a deux choses, il y a un monde bac à sable, une île bac à sable, qui est Isla Nublar, donc l'île signature des Jurassic Park, que tu débloques une fois que t'as fait tes trois premières étoiles sur la campagne solo, la première île, parce qu'il y a cinq îles au total dans la campagne solo. Cinq îles, c'est à peu près cinq situations différentes qui sont plus ou moins faciles à régler. Et une fois qu'en fait vous arrivez sur une île, on vous dit, voilà telle est la situation, voilà ce que tu dois faire, et tu débloques l'île suivante une fois que t'as débloqué trois étoiles. Donc t'as une note sur cinq étoiles dans ton parc, c'est assez classique. Tu dois évidemment veiller à ta note de dinosaure sur 5. Donc évidemment, plus t'as des dinosaures prestigieux, meilleur elle est. Plus t'as de dinosaures, meilleur elle est. Et plus t'as de variétés de dinosaures également, mieux c'est. Et évidemment, tu as une note liée aux touristes, donc à ton infrastructure d'accueil. Donc ça va être évidemment de leur proposer de la bouffe, de la boisson, du divertissement, des boutiques, et puis des capacités d'accueil, par exemple des hôtels. Donc ça, c'est finalement la seule chose que vous allez devoir gérer en termes de gestion pure finalement dans le jeu, c'est ces trucs-là. Et le vrai problème du jeu, c'est qu'en réalité tu gères quasiment rien. C'est-à-dire que tu regardes ta jauge, ah bah tiens, mes touristes, ils ont besoin plus de boissons, et bah tu fous un débit de boissons. Ils ont besoin de plus de divertissement, allez c'est parti, je leur mets une salle d'arcade. Et au final, il y a très très peu de critères que tu vas être amené à gérer toi-même. Tu tweaks un petit peu les petites choses dont ils ont besoin, et au final, tu fais pas grand-chose, quoi.
Mais Maron, je voulais te demander, parce que finalement, c'est les gars qui ont fait Planet Coaster, je veux dire, ouais. Planet Coaster, on s'y attendait. Enfin, quand tu connais Planet Coaster, tu sais que la gestion, OSEF, voilà.
Ouais.
Par contre, du coup, vu que c'est les gars qui ont fait Planet Coaster, on les attendait sur un autre critère quand même, qui est celui du « Ouah, je vais personnaliser mon parc, ça va être génial !»
Eh bien, pas du tout, parce que la personnalisation dans ce jeu est impossible, en fait. Tu as un certain nombre de bâtiments, et ces bâtiments, tu ne vas jamais pouvoir les faire évoluer. Ça sera toujours les mêmes, peu importe l'île que tu vas démarrer, peu importe que tu sois en bac à sable ou pas, il n'y a pas d'éditeur de bâtiments ou quoi que ce soit, c'est « t'as un centre de fossiles, il ressemble à ça, point barre. T'as un débit de boisson, il ressemble à ça, et c'est tout. » Et au final, t'arrives avec une quinzaine d'infrastructures de public qui sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire que t'as deux trucs pour la boisson, la nourriture, t'as deux trucs pour le divertissement, t'as deux trucs pour le shopping, et c'est tout. C'est quand même extrêmement pauvre. Du coup, on arrive assez vite à un des problèmes du jeu, c'est qu'il est extrêmement répétitif au final. Le seuil pour arriver à être rentable et plus penser aux dépenses que tu fais dans ton parc, il est assez vite arrivé, c'est-à-dire qu'une fois que tu mets en place ta stratégie, t'en as pour une demi-heure grosso modo, et puis une fois que tu dépasses les 100 000 dollars par minute de recette, voilà, tu peux dépenser sans compter, comme dirait John Hammond. Du coup, t'en arrives à, même sur la cinquième île, à faire pareil qu'avant. C'est un peu chiant, et une fois que t'arrives à l'île Bac à Sable, qui est gigantesque pour le coup, t'as jamais vu une île aussi grande dans le jeu, et que t'as déjà bien bien grindé, parce que je l'ai pas noté, mais sur chaque île, en réalité, tu as trois factions, la faction scientifique, la faction sécurité, la faction divertissement, qui ont chacune une jauge de satisfaction, et elles vont chacune te donner des petites missions qui sont relativement faciles à faire, et leur jauge va augmenter. Alors attention, par contre, si tu privilégies trop une faction par rapport aux deux autres, il y en a une de ces deux-là qui peut tout à fait saboter ton parc. Mais saboter ton parc, ça veut dire j'ouvre toutes les portes des enclos des dinosaures et démerde-toi avec ça. Ou alors...
c'est pas dangereux pour eux du tout non plus, quoi.
Voilà, c'est ça. Ou ça veut aussi dire j'éteins l'électricité dans ta centrale. Et puis démerde-toi avec ça aussi. Mais c'est aussi ce système-là qui va te permettre de débloquer tous les débloquables, en fait, du jeu. Qu'est-ce que tu débloques dans le jeu? Bah, ça va être les différentes modifications de gènes, évidemment les différents fossiles de dinosaures, et puis les différents bâtiments. Ce qui induit, forcément, de rechercher dans chacune des cinq îles, et ça prend évidemment quelques heures par île, et c'est ce qu'on peut assimiler à du grinding, finalement. Ce qui fait qu'une fois que t'arrives sur Isla Nublar, et que t'as bien fait tes cinq îles, bien cinq étoiles avec tous les débloquables, et bah t'as juste plus envie de te lancer dans une île bac à sable, quoi, parce que t'as l'impression d'avoir déjà tout fait. Et sur l'île bac à sable, évidemment, tu n'as pas de problème de gestion d'argent, c'est fonds illimités, et puis je crois même qu'il n'y a pas de mission. Ces trois factions-là.
Ouais, du coup, en fait, ça perd en intérêt, en fait, si on subit.
Ouais. C'est le vrai problème du jeu. Moi, je l'ai. Du coup, j'ai terminé à 100% les débloquables en une trentaine d'heures. Alors, vous allez me dire, c'est pas mal, mais on parle quand même d'un jeu de gestion. Un jeu de gestion, une trentaine d'heures, c'est assez pauvre quand même. Donc, bon. Moi, je pense qu'il y a un truc, c'est que les développeurs gardent un peu des cartes sous la main, qui vont nous faire du DLC. C'est pas possible qu'un jeu Jurassic World y ait pas de dinosaures volants. C'est pas possible que dans un jeu Jurassic World y ait pas de dinosaures marins non plus. Et à mon avis, ça va arriver dans des DLC.
Ouais, aujourd'hui ça arrive dans des DLC, mais à l'époque ça serait sorti sans internet.
Dans des extensions, ouais.
Ouais, ou même tu sais dans la suite, genre les nouveautés du 2, c'est genre on met des dinosaures.
Tout à fait, bien sûr. Et donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous envisagez l'achat, déjà c'est un jeu qui coûte 50 balles. Attendez que le jeu baisse de prix, attendez une solde, et attendez qu'il y ait eu des mises à jour gratos. Il y a déjà eu une mise à jour gratos sur les dinosaures qui apparaissent dans Jurassic World 2. Donc ça ajoute 6 dinosaures. Attendez ça, sauf si vous êtes un fan absolu de dinosaures et de Jurassic Park et de Tycoon Game. mais soyez bien conscient par contre que ça n'a rien à voir avec un Planet Coaster. Il y a trop peu de personnalisation. Le contenu est finalement trop chiche pour vraiment légitimer le fait d'y passer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. C'est un jeu qui est sympa, c'est-à-dire que moi sur on va dire les 3-4 premières îles, j'ai vraiment kiffé. C'est le syndrome du premier contact qui est vachement cool, et si tu donnais ton test tout de suite, tu donnerais 9 au jeu. Par contre, une fois que t'arrives vraiment à la fin, tu te dis « Ouais, mais j'ai plus besoin de le relancer en fait le jeu ». Du coup voilà, je préfère vous prévenir, c'est un jeu qui est cool, il fait plein de choses super sympas, mais à mon avis les développeurs se sont arrêtés trop vite. Et pour moi, ça n'induit qu'une seule chose, c'est qu'il va y avoir des DLC.
Bon, allez, on va terminer cette séance par un point culture, n'est-ce pas ? Ça fait quelques années qu'on en a pas fait. Pixel, tu vas parler, ouais. Je crois, de la quadrilogie de la dépression, tu appelais ça, pour avoir vu un des films, je confirme. C'est The Day After, Testament, Virus et Threads. Que des films des années 80.
Voilà, que des films des années 80. Alors, si j'ai choisi ces quatre films-là, en fait, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que c'est quand même des films très dépressifs. Et bon, donc toi, Tyran, t'en as vu un, c'est lequel ?
Alors, attends, c'est lequel déjà, celui qui est en mode documentaire en Angleterre
Threads.
Je crois, oui, c'est Threads.
Ouais, Threads, 1984, ouais. Et ces quatre films, en fait, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils montrent à quel point la nature humaine est extrêmement bornée et stupide, et que les humains, quand ils ont déjà beaucoup de pouvoir, ils veulent qu'une seule chose, c'est avoir encore plus de pouvoir, quitte à détruire la race humaine pour y arriver. J'ai fait une sélection de quatre films qui représentent en fait ce que l'humanité peut faire de pire, à savoir la bombe atomique. Et les virus, parce qu'il y a un film qui s'appelle Virus, donc ça parle de virus. Mais il y a quand même des bombes atomiques dedans, donc ça compte, quoi. Donc The Day After, ou Le Jour d'Après, c'est un film d'une nature assez lente. C'est fait exprès, c'est pour mettre la tension. On se prend vraiment au jeu à vouloir savoir en fait ce qui va arriver aux protagonistes de l'histoire. Mais ça reste quand même très soft, il y a même un message... Pas un message, mais on va dire, il y a une espèce d'aura d'espoir à la fin, ouais, même si ils se sont pris des bombes sur la tête.
Parce que moi, j'ai vu le début de Day After, mais je trouve que ça devenait un peu rondondant par rapport à Threads. Et justement, contrairement à Threads, lui, qui pour le coup est très brut de décoffrage, quoi, on va dire.
Ouais, voilà.
Et qui a même une optique quasi documentaire, qui dissèque ce qui se passe, etc. Et qui en est d'autant plus horrible, justement.
Mais du coup, t'as commencé à regarder The Day After, c'est ça ? Et t'as arrêté ?
Oui.
Bah, du coup, tu fais partie des statistiques des gens qui ont arrêté d'en voir le film, comme... Est-ce que t'es pris en compte ou pas?
Joseph Fares n'est pas content.
Je vais enchaîner vite fait avec le deuxième film qui s'appelle Testament. Là, c'est un film, c'est pas un téléfilm, hein, c'est un film de cinéma qui date de 1983, un film américain. C'est l'histoire, en fait, d'une famille de la... On va dire la classe moyenne WASP américaine du début des années 80. Et le mari travaille à San Francisco. Et le jour où il doit revenir à la maison, en fait, San Francisco se prend une bombe atomique sur la tête. On sait pas pourquoi, qui balance la bombe atomique, ni comment, ni pourquoi, c'est juste que, voilà, la bombe atomique pète sur San Francisco. Donc la femme n'a plus de nouvelles de son mari, et elle en aura plus jamais. C'est un film comme The Day After qui est assez lent, on voit pas grand-chose, en fait, c'est pas un film spectaculaire du tout, quoi. C'est presque, ouais, je veux pas dire que c'est un film contemplatif, mais... Ça reste sur un ton beaucoup plus sombre, c'est assez mou, c'est assez long quand même. Mais la fin est quand même assez pessimiste. Et bon, alors, petit truc intéressant, enfin intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais je le dis quand même. On voit dans ce film-là l'un des tout premiers rôles en fait de Kevin Costner, qui est tout jeune dans ce film. Et qui pour une fois, vu que c'est pas le personnage principal, c'est pas un film à sa gloire, quoi. Donc non, là il a un petit rôle, mais il est tout jeune et ça fait bizarre de le voir Kevin Costner jeune. Et donc ensuite on a Virus, un film japonais qui date de 1981, qui était le film, à l'époque, hein, le plus cher de l'histoire du cinéma japonais, qui avait coûté une véritable fortune. Les Américains créent un virus, le virus se fait voler par un scientifique qui veut le ramener en Europe pour éviter que les Américains ne l'utilisent sur les méchants soviétiques, et que ça se finisse en Troisième Guerre mondiale. le virus est récupéré par des agents secrets des États-Unis et sur le chemin du retour, leur avion s'écrase contre une montagne. Et le virus a un truc particulier, c'est qu'il n'est pas actif en dessous de moins 5 degrés. Alors comme c'est dans une montagne enneigée, il n'y a pas de problème, le virus reste inactif. Le problème, c'est que arrive le printemps, la neige fond, la température augmente, et le virus commence à se propager dans toute la vallée, puis dans toute la région, puis dans tout le pays, puis dans le monde entier. Et ça fait des millions de morts, des milliards de morts. Il n'existe aucun remède, aucun médicament, et les êtres humains finissent tous par mourir les uns après les autres, dans d'horribles souffrances d'ailleurs. Et il reste en fait juste une poignée de survivants dans une base en Antarctique. C'est une base de scientifiques où il y a environ 800 hommes et il y a que 7 femmes. Donc ils vont créer leur propre pays, leurs propres règles et tout, mais il y a un problème. C'est qu'il y a que 7 femmes. Alors comment ils vont faire pour continuer la race humaine?
Bah moi je propose un système de rotation par poulie, ou bien tout simplement la méthode du ticket restaurant, c'est-à-dire une femme, une semaine.
Bon, en fait, t'as gagné. ils ont fait la technique du ticket.
Putain, c'est incroyable.
J'ai pas vu le film, hein.
Et le pire est pas encore venu, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des bombes atomiques qui risquent de leur tomber sur la tête. Et comme les bombes atomiques, elles sont lancées depuis un site de lancement à Chicago. Non, c'est pas Chicago, c'est Washington. Comment s'appelle la capitale de Washington. Et bien sûr, le virus est toujours actif, donc ils vont créer une espèce de commando suicide pour aller empêcher les missiles de leur tomber dessus, en fait. Et là, je vous raconterai pas la fin, il faut le voir par vous-même. C'est un film qui est passé en libre de droit depuis des années, vous pouvez aller le voir sur YouTube, il n'y a pas de problème. Hein. Comme The Day After, vous pouvez aller le voir sur YouTube, il est disponible en anglais et en français, il n'y a pas de problème. Et donc, on en vient au dernier film, n'est-ce pas, mon cher tyran, celui qui a dû te mettre à une petite dépression des familles.
Oh, tu sais, j'ai vu pire.
T'as vu pire.
Bah après, si tu parles en matière d'écriture, il a joué à Way Out, donc.
Ouais. Donc le dernier film, en fait, c'est Threads, qui est un film de la BBC, un film anglais, hein, qui date de 1984. C'est plusieurs personnes qui vivent dans une petite bourgade d'Angleterre, qui vont avoir leur vie bouleversée en fait par plusieurs bombes atomiques, et ils vont tous essayer de survivre tant bien que mal. Il y a des passages où tu te crois vraiment que t'es dans un documentaire, et il y a des passages qui sont plus classiques cinématographiques, où t'as l'impression de regarder un film et pas un documentaire. Et autant dans The Day After, il y avait une espèce d'espoir à l'américaine, genre, bon, on s'est pris une bombe atomique sur la gueule, mais on va se relever parce qu'on est américain et parce qu'on est les meilleurs. Là, dans Threads, du début jusqu'à la fin, c'est noir, c'est dark, c'est pessimiste, et à la dernière scène, tu te dis, putain, l'humanité est vraiment foutue. Les humains sont cons d'avoir construit la bombe atomique, ils sont cons de l'avoir utilisée, et s'il y a un jour il y a une guerre atomique, ce qu'on voit dans le film Fred, c'est vraiment même pas la moitié de ce qu'on verra dans la réalité, quoi. Le tyran, est-ce que t'as un truc à dire sur ce film?
Alors, je comprends que ça puisse foutre le bourdon à certaines personnes. Après, moi, je resitue les films dans le contexte dans lequel ils ont été créés. C'est les années 80, hein, voilà. Ouais. Il y a un certain état d'esprit à cette époque-là par rapport à la bombe atomique, etc. D'un autre côté, quand tu vois ces films, tu dis, bon, bah, finalement, ils ont pas lâché les bombes atomiques. Donc, faut voir aussi que ces films ont été créés aussi pour, en quelque sorte, montrer, regarder ce qui se passe. Si on commence à utiliser la bombe atomique, regardez le danger que représente la bombe atomique. Maintenant, j'ai tellement vu d'œuvres, tu sais, où c'est tout le temps, ouais, regarde l'humanité, regarde la déchéance de l'humanité, forcément, ça va être une catastrophe, si jamais c'est l'apocalypse, regarde comment l'humanité va descendre plus bas que terre, etc. Finalement, tu prends le thème du film du zombie, c'est exactement ça, hein. Les Walking Dead, etc., ils ouais. ne font que reprendre cette dialectique qui est, regarde, l'homme est un loup pour l'homme, si jamais tu lui enlèves toutes les règles de la société, ils vont tous se bouffer à la gueule. Personnellement, je suis... Alors là, c'est un discours plus général. Hein. Je suis pas très convaincu du discours qui consiste à dire que si les hommes sont lâchés dans la nature et que ils ont plus les règles de la société actuelle, quoi, on va dire, ils vont tous se bouffer la gueule, ne serait-ce que parce que j'ai tendance à penser que la société actuelle génère déjà beaucoup de violence de par la manière dont elle est conçue. Donc voilà. Moi, j'ai pas ce pessimisme qui consiste à dire que les hommes sont tous des salauds et que forcément si un jour il y a une catastrophe qui arrive, on va tous se bouffer la gueule jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après, je trouve que c'est des films qui sont utiles aussi, parce que c'est des films qui montrent, par contre, ce que c'est de lâcher une bombe nucléaire, les effets que ça peut avoir, ne serait-ce que ça, quoi. Parce que il suffit pas juste d'être sur le site de l'impact pour être dans la merde, quoi, entre guillemets. Tu détruis la Terre définitivement, quoi. Enfin, définitivement, non, mais disons que t'en as pour quelques milliers d'années, quoi. Voilà.
Bah, pour résumer tout ça, moi, je pense qu'on peut laisser le mot de la fin à Dracula, qui dirait « What is a man ?» A miserable little piece of secret.
Little pile of secrets.
Oh. Ouais, c'est ça. Exactement. Une phrase très connue de Castlevania Symphony of the Night. Mais après, pour résumer, en fait, les quatre films, sinon, moi, je vous conseille Akira, le film d'animation qui parle un peu de ces problématiques et qui est juste un classique du genre pour moi. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là?
Ouais.
Rendez-vous ben à la rentrée. Alors je sais pas quand, hein, me demandez pas, moi j'ai besoin de vacances là. Allez, ciao.
Passez de bonnes vacances, un bon été.
Salut, salut.